c'est pour être à la hauteur du micro. Bonjour mesdames et messieurs, nous avons le plaisir et l'honneur d'accueillir aujourd'hui Michael Micker. Permettez-moi de le présenter en quelques mots pour ceux d'entre vous qui ne le connaîtraient pas encore. Le professeur Micker est professeur émérite d'anthropologie à l'Université de Californie à San Diego et il est également professeur affilié à la Jackson School de l'Université de Washington à Seattle. Mais ses appartenances à la lointaine côte ouest n'empêchent pas qu'il est également très fréquemment parisien et plusieurs institutions universitaires françaises en profitent. Il n'y avait donc pas de raison que le Collège de France n'en profite pas à son tour, ne profite pas d'un de ses séjours parisiens. Et j'ai d'ailleurs constaté en regardant le CV du professeur Micker que ses attaches avec Paris sont anciennes, puisqu'il a suivi à l'Université de Paris, il y a quelque temps, des études d'histoire des sciences. Mais bon, c'est bien entendu surtout comme anthropologue qu'il est connu et bien connu et spécialiste de l'anthropologie culturelle et d'ailleurs intéressé par ce qui peut se faire en France dans ce domaine. Les thèmes de ses recherches et de ses publications concernent les représentations littéraires de l'expérience politique, la poésie héroïque, les rapports entre religion et politique, religion et nationalisme, les traditions pastorales et également l'étude des notables locaux. Et ces recherches portent sur différentes zones, l'Arabie, le Maghreb et bien sûr la Turquie, et ce sont surtout ces travaux sur la Turquie que plusieurs d'entre nous ici présents connaissent bien. Et en particulier, à partir du milieu des années 60, le professeur Micker s'est intéressé à une région de la Turquie qui, surtout à cette époque, était négligé, pas mal délaissé, c'est-à-dire le nord-est de la Turquie et les pays de la mer Noire. Et je me souviens personnellement de l'effet qu'avaient produit sur moi ces études sur les notables des régions de la mer Noire. Je voudrais rappeler d'ailleurs quelques-uns des titres de ces articles qui ont eu beaucoup de retentissement sur ces sujets. En 1971, « The Black Sea Turks, Some Aspects of Their Ethnic and Cultural Background ». En 1972, l'article auquel je viens de faire allusion, « The Great Family Haggas of Turkey ». Puis viendront « The New Muslim Intellectuals in the Republic of Turkey » en 1991, une étude parue dans l'IJMES en 1992 sur « The Dede Korkut Ethic » et en 1996 « Concepts of Family, State and Society in the District of Off » paru donc en 1996. Mais beaucoup d'entre vous pensent peut-être tout particulièrement au livre important qu'il a publié en 2002, « A Nation of Empire, The Ottoman Legacy of Turkish Modernity », paru donc à Berkeley, aux presses de l'Université de Californie. Et ce livre a fait l'objet, en 2005, d'une traduction turque sous le titre Imparatorluktan Gelen Bir Ulus. Alors c'est précisément à ce thème des permanence ou des résurgences de l'héritage ottoman dans la vie politique et sociopolitique turque actuelle qu'il va aborder, ou du moins il va aborder un des aspects dans sa conférence d'aujourd'hui. Et c'est évidemment un thème qui interpelle particulièrement les historiens et non seulement les anthropologues, puisque les thèses qui sont soutenues dans cet ouvrage et dont certaines vont être reprises dans la conférence d'aujourd'hui, posent évidemment des questions très intéressantes aux historiens, et il s'agit là, je crois, d'un sujet particulièrement favorable à la rencontre et au débat entre anthropologues et historiens. Donc, je donne la parole au professeur Micker en me réjouissant encore une fois qu'il ait accepté de parler aujourd'hui ici.
Merci pour cette introduction. Je me sens doublement honoré par l'invitation de Gilles Weinstein à présenter mes recherches au Collège de France. Je suis heureux de voir mes travaux reconnus par un historien du monde turc, connu pour sa capacité à critiquer les idées reçues. Et je suis très sensible au fait de parler dans l'institution même où Claude Lévi-Strauss a longtemps enseigné. Il se trouve qu'en 1961, j'ai renoncé à préparer une thèse de physique nucléaire pour changer d'université et me tourner vers une autre discipline, l'anthropologie. Ce ne fut pas une décision facile à prendre, mais la lecture en français de Triste Tropique y joua un grand rôle. Je commencerai par une citation de Şerif Mardin, sociologue turc bien connu, à propos de l'exception turque, qu'il considère comme un héritage ottoman, différenciant la Turquie des États voisins à majorité musulmane. Je cite, « L'État importait plus que la religion pour les Ottomans. Le concept de religion était fondé sur le pouvoir de l'État. L'exception turque dure encore de nos jours. L'État précède toujours la religion d'un millimètre. » Bien des observateurs de la Turquie seront surpris d'apprendre que l'État n'y précède la religion que d'un millimètre. En général, on pense que l'État-nation laïque fondé par Mustafa Kemal Atatürk précède l'islam d'un bon kilomètre. Pourtant, sauf dans les deux ou trois années avant 1930, il y a toujours eu en Turquie une relation étroite, mais cachée, entre la religion et l'État. L'article de la Constitution qui définit le rôle du département des affaires religieuses déclare que le département doit conduire les affaires religieuses de la nation selon le principe de séparation entre l'État et la religion. Curieux. C'est ça que je désigne comme une relation cachée. En s'exprimant ainsi, Mardin a adopté implicitement une position d'anthropologue. Il a d'abord cité Tocqueville sur l'exception américaine, avant de passer à l'exception turque. Tout lecteur de la démocratie en Amérique le sait bien, Tocqueville pensait que le principe d'égalité entre les citoyens était la base d'une nouvelle culture politique qui distinguait radicalement les Américains des Européens. En composant la première description ethnographique des États-Unis, une ethnographie avant la lettre, Tocqueville a mis en valeur un éventail de vertus et de vices démocratiques, encore visibles aujourd'hui dans les institutions politiques de la nation. Il a montré qu'une telle culture politique avait suscité à la fois une ouverture d'esprit et un aveuglement, des germes de paix et de violence, des réussites remarquables et d'étonnantes limitations. Selon lui, le génie politique des Américains s'est révélé à la fois comme un bon et un mauvais génie. Nous avons plusieurs exemples récents, je crois. Bien sûr, tout anthropologue considère chaque nation ou société comme exceptionnelle. En généralisant le point de vue de Tocqueville, on pourrait dire qu'un anthropologue cherche toujours à définir un génie particulier pour expliquer la capacité créative des croyances et des pratiques collectives, ainsi que leurs contradictions et leurs dysfonctionnements. Mardin nous a mené vers un tel but. Tout de suite, sa remarque provoque des questions fondamentales. Si l'État précède de peu la religion, alors il semble imposer ses exigences à la religion. Quelles sont ces exigences? Qu'est-ce que l'État demande à la religion? Mais en agissant ainsi, n'est-ce pas l'État qui se place dans la dépendance de la religion, qu'il voulait mettre à son service? Quel est le destin d'un tel État? Dans ce qui suit, je m'efforcerai de répondre à ces questions en me tournant vers les monuments et les cérémonies de l'époque impériale, comme de ceux de la République. Mais je voudrais d'abord illustrer comment la culture politique turque est exceptionnelle en revenant sur une scène autrefois observée dans le pays. En 1988, au printemps, j'ai plusieurs fois traversé en voiture la ville de Samsun sur la mer Noire. J'ai remarqué que, qu'à l'entrée et à la sortie de la ville, il y avait dorénavant de larges panneaux de stop pour les voitures. Mais personne ne s'arrêtait. Un jour, j'ai noté la présence d'un policier en faction à côté d'un tel panneau. Ce jour-là, tous les véhicules ont marqué le stop avant de continuer le chemin. Quand j'ai rapporté mon observation à un ami qui réside dans cette région côtière, il m'a répondu « Ah oui, bien sûr, le panneau ne réagit pas. » En Turquie, à ce moment, quand je raconte ce récit, la salle, il y a un éclat de rire, parce qu'ils comprennent. Quelques semaines plus tard, j'ai pu vérifier la justesse de sa remarque en observant un autre policier qui réglait la circulation à l'un des carrefours les plus encombrés d'Istanbul. Il faisait place successivement aux différentes files de véhicules, mais de temps en temps, il ramassait quelques cailloux sur le pavement mal entretenu. Quand une voiture ne respectait pas ses indications, il criait les injures au chauffeur et jetait des cailloux sur sa voiture passante. Peu après, je me suis rendu à la London School of Oriental and African Studies pour participer à un colloque sur l'islam en Turquie. Dans le hall d'entrée, j'ai demandé au gardien en uniforme assis devant le comptoir où se tenait le dit colloque. D'un geste de la main, il a désigné un panneau placé de l'autre côté du hall et m'a commandé sévèrement « Lisez l'annonce ». Tous les renseignements nécessaires y figuraient. Ainsi, à Londres, Chacun est exigé à décoder des textes et des signes, à soumettre à leurs indications et à agir en conséquence. Dans les rues de Samsun ou d'Istanbul, chacun noue des relations fugitives avec d'autres personnes, et ce sont ces relations qui dirigent sa conduite. Mon petit récit semble opposer une discipline sémiologique qui est individualiste et rationaliste à une discipline sociale orientée aux autres. Et je semble ainsi souligner la différence entre modernité et tradition. L'injonction de lire, transmise par le Guardian à Londres, évoque les récits classiques du XXe siècle sur le procès de modernisation. Selon George Zimmel, la ville instaure le règne des choix individuels au détriment d'un réseau de relations directes entre les personnes. Pour Max Weber, la cage de fer du capitalisme a substitué aux communautés de foi la rationalisation des conduites et des calculs individuels. À l'opposé, la discipline sociale dont j'ai observé le fonctionnement à Samsun comme à Istanbul, renvoie à une communauté où la conduite des individus est soumise à l'examen et à la censure des voisins. Pourtant, quelque chose cloche dans cette conclusion. Les policiers turcs sont employés par la puissance publique pour réguler des flots de véhicules dans le décor anonyme d'une vaste conurbation où vivent des milliers de gens. Les conducteurs de ces véhicules sont des citadins soumis au jeu de forces capitalistes et ils lui sont soumis plus étroitement que les habitants de Londres, de Paris ou de Berlin. En fait, l'exemple décrit nous renvoie à l'héritage impérial, à une manière particulière de donner forme politique à l'autorité et à l'association entre les personnes. Une culture politique qui en Turquie s'efface ici et là pour mieux refleurir ailleurs. Je peux citer maintes autres exemples en ce qui concerne la prison, l'armée, l'école, l'usine, les clubs, etc. Permettez-moi maintenant de rappeler quelles ont été les origines de cette culture politique dans l'Empire ottoman au XVe et XVIe siècles. Le sultan était alors le souverain suprême en tout domaine sans une opposition organisée d'une aristocratie, une bourgeoisie ou une paysannerie. Il gouvernait par l'intermédiaire d'un petit nombre d'officiers qui eux-mêmes dirigeaient un plus grand nombre de gens répartis dans les différents territoires. En ce sens, la relation étroite instaurée entre le sultan et ses serviteurs garantissait l'intégrité et la stabilité du régime impérial. Les serviteurs du sultan étaient recrutés et formés de façon à affaiblir le lien avec leurs origines, soit ethniques, linguistiques ou religieuses. Ils devenaient mentalement et psychologiquement des hommes nouveaux, en se conformant à une discipline sociale d'association interpersonnelle inspirée de la loi sacrée de l'islam. Dès lors, le sultan et ses serviteurs formaient une société souveraine, divinement ordonnée. Cette société était plus universaliste que particulariste et plus opposée à la tradition que traditionnelle. Cette discipline sociale d'association interpersonnelle évitait l'apparition de forces centrifuges, un danger inhérent au régime impérial. Mais au-delà de sa fonction politique d'ordre pratique, elle donnait à l'Empire ottoman un fondement légitime. Dans ce sens, Le palais et la mosquée impériale étaient la scène où le sultan et ses serviteurs se donnaient à voir comme formant une harmonieuse société souveraine. À la fin du XVIe siècle, un diplomate français venu en ambassade à Istanbul a laissé cette description de la célébration de la victoire dans la cour centrale du palais de Topkapı. Un spectacle calculé à étonner les ambassadeurs en visite. Je cite. Monsieur l'ambassadeur salua les grands de la cour, de la tête, et eux se levèrent et lui firent révérence. Et à un moment donné, en firent autant les janissaires et autres hommes d'armes, se tenant tout droit et sans armes le long du mur de ladite cour. De sorte qu'à voir s'incliner ensemble tant de turbans, il me semblait voir un vaste champ d'épis mûrs s'abaisser doucement au souffle léger du zéphyr. Nous regardions avec grand plaisir et plus grande admiration ce nombre effrayant de janissaires et d'autres soldats. Il y aurait eu plusieurs milliers. Et se tenant tout le long du mur de cette cour, les mains jointes devant eux à la manière des moines, dans un tel silence qu'ils nous semblaient voir non des hommes, mais des statues. Et ils restèrent immobiles de la sorte plus de 7 heures, sans que jamais aucun fît mine de parler ou de bouger. Certes, il est presque impossible de concevoir cette discipline et cette obéissance quand on ne l'a pas vue. Enfin. En fait, un pouvoir souverain personnel basé sur une discipline sociale cimentait le régime impérial classique. Ce type de relation entre l'autorité et l'association interpersonnelle, déjà présent dans les pratiques archaïques des tribus turciques, a servi ensuite à recruter et à former des sujets albanais, grecs, slaves ou caucasiens pour en faire de loyaux officiers impériaux. Malgré son origine tribale, ce mode de relation fut pensé et légitimé en référence à la loi sacrée de l'islam. Nous voici parvenus à ce que l'État demandait à la religion, une discipline sociale qui suscite obéissance et solidarité. Le régime impérial n'était par essence ni turcique ni islamique. C'était plutôt un mélange conçu pour répondre aux besoins d'un projet impérial. Ce mélange mettait la religion au service de l'État. À intervalles réguliers, le sultan et ses serviteurs se rassemblaient dans la cour centrale avant de rendre à la mosquée impériale pour la prière du vendredi. Ils allaient ainsi d'une scène destinée à déployer devant le sultan l'obéissance et la solidarité pratiquée, à une autre scène destinée à déployer les mêmes vertus devant Dieu. Le visiteur venu de France relevait ce parallèle en observant la procession du sultan et de sa suite vers la mosquée impériale. Je cite. Sur le passage du grand seigneur, le silence était extraordinairement profond partout. On eût dit que son seul regard transmua les hommes comme méduses en marbre ou en poisson muet, car ils ont pour ferme opinion que leur seigneur est l'ombre et le souffle de Dieu sur la terre. N'ayant rien appris dès leur jeunesse dans le sarai que l'obéissance et le respect qu'on doit à l'empereur. Et par cette unique discipline, ils vont toujours augmentant leur puissance à la grande honte de tous les chrétiens. Fin. Ces citations indiquent que l'observateur fut séduit par les mises en scène impériales. Il a mordu à l'hameçon offert et des scènes vues il a tiré les conclusions que les monuments et les cérémonies impériales visaient à produire. En même temps, sous l'impression forte reçue de ces démonstrations d'obéissance et de solidarité, il n'a pas remarqué un autre élément important du message. La discipline sociale en question était étroitement liée aux arts et au plaisir d'une association interpersonnelle conduite en face à face. Salutations d'accueil, paroles de reconnaissance, confirmation d'accord, conseil, condoléances, formule d'adieu. Tous ces échanges entre les personnes peuvent se dire en langue turque au moyen d'une étonnante quantité de formules réciproques. Un linguiste a récemment décompté plus de 150 telles formules dans le turc contemporain. L'ancien dispositif devait perdre sa stabilité quand le contexte géopolitique changea. Au dernier quart du XVIIIe siècle, les Ottomans ont été obligés de recruter des provinciaux pour gérer les conflits internes et affronter les difficultés externes. Le gouvernement central choisit alors d'élargir le cercle des entrants dans les institutions impériales, militaires et religieuses. Le ciment du régime impérial, le pouvoir souverain, fondé sur l'association entre les personnes, devint alors le ciment de formation sociale, sise dans les provinces du centre de l'Empire et tournée vers l'État. Hors du palais, personne n'avait les moyens d'égaler la splendeur et l'excès des cérémonies qui s'y tenaient. Mais pour le reste, la culture politique qui liait l'autorité au processus d'association interpersonnelle pouvait aisément être adoptée par les élites provinciales ambitieuses. Débarrassée des symboles et des rites impériaux, le noyau du système palatial prit racine dans l'espace rural. Quatre éléments le composaient. Les officiers de l'État reconnaissaient le rôle d'un leader local. La parenté, les amis, les alliés de ce leader s'agrégeaient pour former une militia. Les associations interpersonnelles s'organisaient en réseau légitimé par les croyances et les pratiques de l'islam. 4. Un corps d'experts religieux fournissait des professeurs et des conseillers. Le sultan n'était plus seul à détenir le pouvoir. Désormais, il y avait toute une hiérarchie de responsables ordonnés de haut en bas, du palais aux districts provinciaux. Les historiens ottomans ont nommé ce fonctionnement le temps de la décentralisation. Dans ce qui suit, je me bornerai à présenter l'exemple de l'ancienne province de Trabzon. Plus ou moins, cette région. On peut y voir comment la culture politique ottomane s'y est implantée. L'ancienne province de Trabzon fut en Asie mineure, l'une des dernières régions de l'Empire byzantin à tomber aux mains des Ottomans. 8 ans après la chute de Constantinople. Au premier siècle de la domination ottomane, un certain nombre de musulmans turciques ou kurdes ont émigré dans cette province et certains des chrétiens se sont convertis à l'islam. Mais la grande majorité des habitants étaient toujours des chrétiens qui parlaient le grec, l'arménien ou le lazi. Et pardonne-moi, le lazi, c'est un des langues kartveliennes qui, géorgien est un autre, c'est une langue du Caucasus. Plus tard, au début du XVIIIe siècle, la région côtière orientale est majoritairement peuplée de musulmans, adeptes d'un islam officiel, peu enclin à l'hétérodoxie, qu'elle fût chiite ou sunnite. Autrement dit, un mélange de grecs, de l'Asie, d'arméniens, de turcs et de kurdes s'était transformé en une société ottomane de province. Beaucoup d'hommes, et dans certains lieux, la plupart d'entre eux, entraient dans les militias ou les régiments impériaux. D'autres devenaient étudiants ou professeurs dans les académies religieuses impériales. D'anciens sujets de l'Empire byzantin étaient bel et bien devenus plus ottomans et musulmans que beaucoup d'autres populations d'Asie mineure que leurs origines turciques ou kurdes auraient fait considérer comme musulmanes par nature ou par essence. La présence de tant de soldats et d'étudiants dans cette région témoigne du degré d'assimilation ottomane de la société provinciale. Cette transformation signifie davantage qu'une simple affiliation impériale. En effet, dès la première moitié du XVIIIe siècle, ce ne sont plus les officiers ottomans qui gouvernent directement la province de Trebizond. Ils dépendent d'élites locales qui leur servent d'intermédiaires et les tiennent à distance de la population. Ces élites locales perçoivent les impôts destinés au gouvernement provincial, mais souvent, ils conservent cet argent pour eux. Ils imposent des amendes ou arrêtent des fugitifs, en principe sur l'ordre des tribunaux, mais plus souvent de leur propre initiative. Il entretient des groupes armés en principe pour servir à la demande des campagnes impériales, mais le plus souvent, ils refusent de se séparer de leurs hommes pour les besoins de l'Empire et les utilisent surtout pour s'affronter entre eux au niveau local ou régional. Le point le plus important, c'est que les élites locales constituent un cadre d'autorité et d'association dont l'emprise est large et profonde. Ces élites forment une oligarchie régionale englobant tous les districts côtiers de la province. Familles et parentés étaient solidarisées en factions cimentées par le jeu des alliances matrimoniales. Chaque membre de l'élite locale demeurait le pivot d'un réseau de parents, d'amis, d'alliés dans son propre district. Chacun d'eux pouvait mobiliser un groupe armé plus large que le seul réseau de ses proches. Le modèle politique célébré dans l'architecture et le cérémonial de l'Empire fut ainsi exporté jusque dans les campagnes de province. Le sultan avait utilisé l'islam en s'appuyant sur la discipline religieuse pour former un corps de serviteurs loyaux. Désormais, lui et ses serviteurs trouvaient en face d'eux des élites et des réseaux provinciaux qui les avaient imités et s'appuyaient sur la même discipline religieuse. Vers la fin du temps de la décentralisation, les consuls venus d'Europe, tenaient les élites locales pour des dérubés, des seigneurs des valets, et jugeaient qu'ils constituaient un système politique illégal et complètement séparé du gouvernement central. Au contraire, on peut dire que la culture politique ottomane a suscité deux modes distincts d'exercice du pouvoir souverain à travers les associations interpersonnelles. Le mode officiel concernait le sultan, les officiers impériaux, un recrutement et une formation institutionnalisée, des rituels de cérémonie, des codes de manière. Le mode non officiel concernait les élites locales, les relations entre des patrons et leurs clients, et les réseaux sociaux. Les deux modes se rapportaient au système étatique. L'islam sunnite les légitimait. Bien avant le début des réformes occidentales au XIXe siècle, avant l'aube des États-nations en Europe et en Amérique, les Ottomans ont fait naître une société étatique dans différentes parties des provinces du centre, une société capable à son tour de contraindre le gouvernement central. Autrement dit, la politique menée par le régime impérial a semé les germes d'une forme de citoyenneté dans les provinces. Un peu avant 1840, les Ottomans ont restauré l'autorité du gouvernement central en réorganisant l'armée et l'administration, en recourant à des inventions techniques récentes comme la navigation à vapeur et la télégraphie. Après cela, les élites locales de Trabzon n'ont plus osé mobiliser leur groupe armé contre les officiers de l'État. C'est pourquoi les consuls européens de l'époque ont annoncé que les Deribay, seigneurs de Valais, avaient complètement disparu, en oubliant que ces derniers n'étaient que les représentants visibles de réseaux sociaux cachés. En fait, les élites locales de la province de Trabzon étaient encore capables de faire pression sur le gouvernement provincial et d'y participer. Comme je l'ai montré ailleurs, ces élites ont survécu à une longue série de transformations. La suppression des janissaires, la modernisation de l'administration impériale, la révolution des jeunes turcs, la révolution culturelle nationale, l'adoption d'un système multiparti et puis les coups d'État militaires qui les ont suivis. Dans la région côtière orientale, comme dans d'autres parties de la République turque, le conflit sur la distribution du pouvoir souverain ne s'est pas éteint. Dans toutes ces régions, ici et là, les élites locales continuent à contester l'autorité des officiers de l'État, ouvertement en se vantant de leur pouvoir, secrètement en infiltrant les postes du gouvernement provincial. La menace d'action violente joue toujours un rôle dans les affaires locales. Les armes sont souvent portées sur la personne. Ni les gens ordinaires, ni les officiers de l'État ne se risquent à franchir certaines lignes. Ces remarques conduisent à s'interroger sur l'historiographie conventionnelle qui porte sur les derniers temps de l'Empire ottoman. Contrairement à ce qui a été dit, il n'y eut alors aucun gouffre séparant l'État de la société, car de larges groupes sociaux s'étaient appropriés la culture politique impériale dans différentes parties de l'Asie mineure. Les dérivés n'avaient pas vraiment disparu. Les élites locales et les réseaux sociaux ont continué à coloniser le système étatique. Les musulmans sunnites des provinces ne formaient plus une communauté religieuse placée parmi d'autres sur un pied d'égalité comme l'affirmait le système officiel du millet. Car désormais, les sunnites avaient la capacité et la volonté de contester le gouvernement central et par là de miner le système du millet. Le projet de créer une citoyenneté ottomane ouverte à toutes les communautés religieuses, en remplaçant du système du millet, était plausible à Istanbul. Mais à Trabzon et ailleurs dans l'espace rural, il aurait affronté une formidable opposition si l'Empire ottoman avait survécu à la Première Guerre mondiale. La fondation de la République turque n'a pas mis au défi de transformer les paysans en citoyens turcs. En réalité, les nationalistes ont dû affronter le défi de mobiliser les formations sociales existantes et tourner vers l'État pour les faire entrer dans un cadre nationaliste. L'État-nation turc n'a pas été une entité politique toute neuve. C'était une forme dérivée d'une organisation antérieure d'identification et de participation étatique. En conclusion, je voudrais considérer la place de la culture politique d'inspiration ottomane dans la République de Turquie. En prenant la tête d'un mouvement nationaliste, Mustafa Kemal, qui adoptait ensuite le nom d'Atatürk, devait accélérer la disparition du régime impérial et la fondation d'une république turque. Les nationalistes s'attelèrent à produire une révolution culturelle. Ils envoyèrent en exil le dernier sultan avec sa famille, modifièrent la structure institutionnelle du système étatique, reformulèrent les symboles et les rituels de la vie politique. Pourtant, sous la structure profonde de la République, on a vu réapparaître la structure profonde de l'État et de la société ottomane. Ce que j'ai appelé plus haut sa culture politique. Je vais illustrer ce point en évoquant deux monuments nationaux, le mémorial du tombeau d'Atatürk et la mosquée du Kocatepe. Le mémorial du tombeau d'Atatürk a été conçu pour devenir le principal lieu des cérémonies officielles de la République turque. Dans ce but, on l'édifia sur une colline hors de la ville d'Ankara, dominant les plaines d'Asie mineure. La disposition de l'espace alentour et des bâtiments, leur magnificence sont pareilles. On fait de cet ensemble le projet architectural le plus ambitieux au premier temps de la République. En 1953, pour le 15e anniversaire de la mort d'Atatürk, on transféra sa dépouille dans ce lieu pour l'inhumer dans la crypte du Hall d'honneur. Depuis, il est d'usage d'y célébrer des cérémonies officielles. Chaque année, pour l'anniversaire de la mort d'Atatürk, lors des visites de chefs d'État étrangers et à d'autres occasions importantes. Les membres des associations publiques et privées, par exemple les écoliers et leurs professeurs, les officiers des armées, le cadre des entreprises, les édiles municipaux, les membres de clubs divers, etc., se réunissent au mémorial pour saluer la mémoire du fondateur de la République. À certaines dates officielles, comme la fête de la victoire, les représentants de l'État, les élus, les bureaucrates et les militaires de haut rang se réunissent dans la cour centrale du mémorial. Ils se tiennent en rang serré, en silence, devant la salle où repose la dépouille dans le hall d'honneur. Ils sont là en présence du chef de la nation, qui les observe et écoute leur silence. Parfois, on croit voir ses sourcils à travers les nuages qui flottent au-dessus du site. Une forme d'association interpersonnelle donne à la personne du souverain le pouvoir de faire retour parmi les siens. La cour centrale, par son nom, par les cérémonies qui s'y tiennent, et dans son architecture, ressemble étrangement aux cérémonies de la victoire, autrefois célébrées dans la cour centrale du palais de Topkapı, abandonnée dès 1853. Ces ressemblances n'ont pas été voulues, car les premiers partisans d'Atatürk ne s'intéressaient pas aux cérémonies impériales disparues depuis longtemps. et probablement ne les connaissait-il pas. Mais je crois qu'une structure profonde de la culture politique s'est conservée de l'Empire à la République, structure qui assura d'un régime à l'autre la transmission d'un modèle de pouvoir et d'association. Dans les premiers temps de la République, on discuta de la construction d'une mosquée nationale qui serait une structure moderne aux dimensions modestes. La controverse dura de longues années. Le projet fut finalisé après 1980, dans un contexte particulier. Un coup d'État militaire ayant mis à fin une période d'anarchie dans les villes, les généraux ont espéré trouver dans l'islam sunnite un instrument de stabilisation sociale. Les restrictions officielles à la présence visible des croyants dans la vie publique furent allégées. Les fidèles se firent plus actifs, notamment dans l'édition et en créant des organisations diverses. Ils s'enthousiasmèrent pour la construction d'une mosquée nationale, sans vouloir d'un dessin moderne ni d'une conception modeste, bien au contraire. La mosquée nationale de Kocatepe suit implicitement le modèle ottoman classique, qui fut lui-même la plus haute réalisation architecturale du régime impérial. On dit que cette mosquée reproduit la mosquée Sultan Ahmed d'Istanbul, édifiée au XVIIe siècle, alors que les Ottomans commençaient à chercher des appuis dans les provinces. Bâtie sur une colline à l'intérieur de la ville d'Ankara, son architecture, très visible dans le panorama de la ville, semble se dresser à la même hauteur que le mémorial du tombeau, qui en est assez éloigné. Comme si la mosquée rivalisait avec le mémorial pour symboliser l'identité nationale. En ce sens, il y a un contraste saisissant entre la mosquée nationale et les mosquées antérieures bâties sous l'Empire. Celle d'Istanbul était destinée à l'assemblée du sultan et de ses officiers pour la prière de vendredi. La mosquée de Kocatepe renvoie à une nation formée d'une masse de croyants, unis en une vaste association interpersonnelle. C'est de loin la plus vaste mosquée de Turquie. Ses dimensions surpassent celles de toutes les mosquées antérieures. D'importantes voies de circulation passent près d'elle ou en dessous. Un dôme immense de larges places en était aménagé pour permettre le rassemblement de milliers de fidèles qui viennent par autobus, etc. La brochure remise aux visiteurs souligne ce point. Je cite. La mosquée, comme son nom l'indique, est un lieu de rassemblement. Au jour de son ouverture officielle, pendant le Ramadan de 1986, on a pu réellement expérimenter le sens de son nom. Kocatepe fut bondé de fidèles, accourus des provinces, des districts et des régions. Ce fleuve humain qui se dirigeait vers le plus grand lieu de culte de l'âge républicain, exprimait le désir ardent de grandir et de s'unir qui animait la nation turque. Fin. Ainsi, quand des milliers de croyants se réunissent pour dire leur prière, la nation se donne à voir. Chacun de ces deux monuments donne une image différente de l'État-nation. Et cela en deux images incompatibles entre elles, venues des deux modes de la culture politique ottomane. Au mémorial du tambour, l'obéissance aux normes officielles du discours national et à ses codes vestimentaires fait revenir en quelque sorte un fonditeur de l'État. À la mosquée de Kocatepe, l'obéissance aux normes religieuses de l'association interpersonnelle fait revenir une nation. Ces deux États-nations opposés existent véritablement en pensée et en pratique aux deux extrémités de l'éventail politique. Les héritiers d'Atatürk, plus ou moins radicaux, demandent à la bureaucratie militaire de défendre l'État laïque contre le populisme islamiste. Les islamistes, plus ou moins radicaux, espèrent s'insinuer dans l'administration civile ou gagner des responsabilités publiques en mobilisant les croyants. De temps en temps, les deux monuments sont le théâtre des manifestations et contre-manifestations de l'un ou l'autre camp. Aucun des deux camps n'est par essence réactionnaire ou conservateur. Les deux ont contribué positivement à l'évolution d'un régime démocratique en Turquie. La République est bien éloignée des guerres intestines qui empoisonnaient le temps de décentralisation. Néanmoins, chacun des deux mouvements politiques cherche à freiner l'autorité de la Constitution, l'instauration de l'égalité devant la loi, la participation ouverte des citoyens à la vie publique. Une classe moyenne en expansion et de tendance libérale se voit elle-même forcée de choisir entre une version autocratique de la République d'Atatürk, soutenue par les généraux, et un islamisme d'exclusion soutenu par les associations de voisinage sunnites. Les minorités non turciques et non sunnites, ainsi qu'un certain nombre de dissidents sunnites, sont dans une position similaire ou même beaucoup plus difficile. Chacun des deux monuments décrits renvoie à des caractères de l'État et de la société dans lesquels les citoyens se reconnaissent. En même temps, les deux monuments sont aussi les dépositaires de deux autoritarismes distincts. Parallèlement coupable d'avoir restreint la participation politique tout en lui permettant d'exister. Peut-être la République de Turquie aura-t-elle plus tard un troisième monument national. Puisque le mémorial du tombeau ne reconnaît pas la religion et que la mosquée de Kocatepe ne reconnaît pas l'État, on pourrait imaginez une forme civique d'autorité et d'association qui ne soit ni soumise à l'État, ni légitimée par la religion. Peut-être cette forme à venir de l'exception turque est-elle déjà en cours d'élaboration. Merci.